Aujourd'hui, sur Antenne Doc, nous allons parler de spéléologie. Pourquoi la spéléologie ? Parce que finalement, dans le Lot, il paraît qu'on est vraiment bien loti en termes de nombre de cavités. Il serait l'un des plus riches départements du Sud-Ouest. Et pour parler de la spéléologie, nous avons la chance d'être en compagnie de Eric. Bonjour Eric.
Bonjour.
Pourrais-tu te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais et surtout pourquoi tu aimes la spéléologie ?
Voilà, je m'appelle Eric Virgoulet, je suis spéléologue depuis à peu près 25 ans. Tombé dans la potion magique à l'âge de 19 ans, voilà, dans la spéléologie, bien sûr. Et après, j'en ai fait mon métier parce que je suis professionnel aussi en spéléo et je partage ma passion pour les cavités avec des gens, avec des clients. Et puis, je suis aussi impliqué dans le Spéléo Club de Saint-Céré, au nord du département, depuis de très très nombreuses années.
Peux-tu nous dire donc ce que c'est que faire de la spéléologie ?
La spéléologie, c'est découvrir le milieu souterrain. Alors, on a plein de façons de découvrir le milieu souterrain. On peut les découvrir, déjà, il faut la découvrir physiquement parlant, c'est-à-dire il faut rentrer dedans, dans les cavités, dans toutes les cavités, du mieux qu'on peut, ou de ce qu'on peut faire. La découvrir aussi, c'est toutes ces, je dirais, ces richesses. Ça peut être des richesses archéologiques, ça peut être des richesses visuelles, ça peut être de la science, ça peut être du plaisir simplement de se promener sous terre. Voilà. Ou aussi de la découverte et essayer de découvrir de nouvelles cavités.
D'accord, ça veut dire qu'on peut encore découvrir des nouvelles cavités dans le Lot.
Mais partout, on a peut-être découvert que 20% des potentiels de cavités actuellement. Et dans le monde, ça doit peut-être être 2, 3, 4 ou 5%.
Ah oui, quand même. Et par exemple, dans le Lot, on a combien de cavités à peu près ?
Oh, disons, on va dire 3500, à peu près.
3500 ? Et toutes sont praticables ?
Toutes sont praticables, mais pas forcément pratiquées. Parce qu'il y a des cavités qui sont belles, il y a des cavités qui sont faciles, il y a des cavités qui sont extrêmement difficiles. Il y a plein de cavités partout. Il y a des petites cavités, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 70 km, comme Padirac par exemple.
70 km de réseau de galeries, c'est énorme.
Des galeries explorées, c'est-à-dire où l'être humain est passé. Padirac, actuellement, oui, ça doit coter autour de 70 km de galerie, qui est la plus grande cavité du département. Mais il y a des potentiels qui sont énormes. Vous avez des potentiels qui pourraient aller vers les 200, 300 km, voilà, dans le département.
Et oui, quand même, en fait, on ne s'imagine pas. Et on peut aller très profond sous terre ?
Eh bien, profond sous terre, de la surface jusqu'au fond, où on peut aller au plus profond pour l'instant, c'est l'île de Viazac, qui est sur la Brogne, donc Cagnac. Et c'est moins 250, entre moins 250 et moins 300 de profondeur.
Et en France, j'imagine qu'on peut aussi trouver des cavités aussi profondes, voire plus profondes.
Mais bien sûr, vous pouvez descendre le gouffre, le Jean-Bernard, c'est moins 1600, je crois. 1,6 km.
1,6 km de profondeur.
Mais le gouffre Berger dans le Vercors cote à moins 1100. 1,1 km 100, à peu près.
Et les plus longs réseaux en France alors?
Les plus longs le réseau actuellement, c'est. Je crois que c'est la Coumouarnède avec plus de 100 km, même plus 120 km de Galal. C'est très très karstifié. Et karstifié, ça veut dire que c'est creusé, le sous-sol est creusé de partout avec plein de galeries.
Et j'imagine que toutes les cavités n'ont pas la même allure, n'ont pas la même structure, la même forme. Quels sont les différents types de cavités qu'on peut rencontrer?
Alors, si on essaye de faire un classement des cavités, vous avez des cavités qui sont très très vieilles. Généralement en haut des plateaux, petites cavités, voilà, où il n'y a pas d'eau qui circule. Ouais. Après, on a des cavités où il y a de l'eau qui circule dedans. C'est toutes les pertes. Perte de Thémines, perte du Sault de la Pucelle, perte de Réveillon, Roc de Corps. Ça constitue le principal, je dirais, drain des cavités, pas d'Irak aussi par exemple. Après, vous avez plein de cavités qui sont verticales. C'est surtout tout ce qu'il y a autour de la Brogne, autour de Cagnac-du-Causse. C'est là où on descend très profond et là, les galeries sont verticales au lieu d'être horizontales. Et la spécialité un peu du département, c'est les rivières souterraines. Alors, les rivières souterraines, là, il y en a plein, hein. Il y en a des très grosses. Notamment, par exemple, le Vitarel. Le réseau de Louise souterraine, pas d'Irak. Et après, vous avez tout ce qui ressort sur les vallées, où c'est plutôt le domaine des plongeurs que des gens aériens, qui est tout là où on fait de la plongée. Le gouffre Saint-Georges, Saint-Sauveur, le Recel. Et le Lot est le troisième spot mondial pour la plongée souterraine.
D'accord.
Le premier spot, c'est les Cénotes au Mexique. Le deuxième spot mondial, c'est. Du côté de Miami en Floride. Et le troisième spot mondial, c'est quand même le Lot. Voilà, pour la plongée souterraine. Et d'ailleurs, il y a plein de plongeurs qui viennent dans les résurgences pour exprimer leur passion.
Et qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Pourquoi il y a tant de gens qui veulent aller sous terre?
Que de la pierre et de l'eau, et le mélange entre les deux. Donc l'eau qui a fait des trous, l'eau qui a fait des petits trous, des crocs, des formes d'érosion particulières que vous reverrez jamais à la surface. Des concrétions comme on les connaît d'habitude, stalactites, stalagmites, draperies, etc., qu'on voit dans les grottes touristiques par exemple beaucoup, mais aussi des concrétions très particulières, des bouquets d'aragonite. Des cristaux très très particuliers. Et puis des formes d'érosion qui n'existent pas sur Terre, qui n'existent que sous Terre. Un monde très très particulier. Un dédale de galeries, de trous, de passages, avec de l'eau aussi des fois très très belle, toute verte, transparente, translucide, avec de la pierre par exemple jaune, rouge ou noire. Qui donne des reflets particuliers à ce monde.
Peut-on croiser de la vie dans le monde souterrain? Y a-t-il des êtres vivants?
Bah déjà, il y a les êtres humains. C'est déjà pas mal. Quand on y va. Oui, il y a quelques bestioles. Ouais. Oui, il y a plein de bestioles sous terre. Des petits insectes, des petits crustacés, les petites bandes de chauves-souris. Voilà, qui affectionnent bien le milieu souterrain. Pas beaucoup d'espèces, 5 ou 6 espèces qui fréquentent le milieu souterrain, sur une trentaine d'espèces en France. Oui, plein de bestioles, oui, mais pas exceptionnelles, c'est de la petite faune, c'est un reflet de la bonne santé, je dirais, du sous-sol.
Et est-ce qu'il est possible de trouver, par exemple, des ossements ou des gisements paléontologiques, des traces de notre passé en fait.
Ben oui, et c'est encore une spécialité du Lot. Comme ailleurs, hein, comme en Ardèche par exemple. Souvent on tombe quand on fait de la découverte, par exemple moi j'ai l'exemple d'une cavité du côté de Padirac et Loubressac, où on est tombé sur un gros tas de nonos, voilà, qui sont des bisons, qui se sont jetés dans un trou il y a très longtemps, puisque le plus vieux a été daté à 45 000 ans. Et on travaille des paléontologues ou des archéologues quand on fait de la découverte. Généralement, chaque fois que l'on fait un bout de découverte quelque part et qu'on découvre une nouvelle cavité, on trouve quelque chose. Des petites traces humaines, mais beaucoup de traces de faune. Et surtout de la faune froide. Le renne, très présent. Le bison, très très présent. Énorme. Quelques aurochs, le cheval, et de la faune de la dernière glaciation. Ils se sont fait piéger dans la cavité. Et aussi, on peut parler du mammouth, puisque quand même, il y a quand même quelques cavités dans le Lot où la présence du mammouth est avérée.
Oui, donc on peut encore faire de belles découvertes dans le Lot. Et toi, ça t'arrive donc de travailler avec des archéos en tant que professionnel en spéléologie, d'accompagner des scientifiques comme ça pour justement aller étudier des découvertes, les guider aussi dans les cavités, par exemple?
Disons que depuis plusieurs années, quand même quelques scientifiques qui s'intéressent à ce qu'on fait, nous, en recherche en spéléo, quand on fait de la découverte, et on est de plus en plus collaboratif avec eux. Alors que quelques années auparavant, effectivement, il y avait quand même quelques difficultés avec les archéos. Mais bon, bref, laissons-le là, pour l'instant, avançons. Avançons avec ceux qui veulent bien avancer. Et je les remercie, parce que c'est bien, parce qu'on peut faire des bons échanges. Nous, on découvre, eux, ils fouillent. Ouais, c'est parfait. Par exemple, moi j'ai une cavité que je fréquente très très souvent en professionnel, c'est le Sceau de la Pucelle à Gramin. Et on a remarqué qu'effectivement on a trouvé de la tuile romaine dans la rivière souterraine, dans les remplissages des cailloux et de l'argile qu'il y a dans la cavité déposée par la rivière. Donc j'ai fait expertiser ça avec un expert en poterie romaine et puis en céramique romaine. Et il s'avère que ça nous donne plein d'informations. Sur le petit ruisseau de Rignac, parce que le ruisseau de Rignac se jette dans le Sceau de la Pucelle. Et or, avant, on ne savait pas qu'il y avait des villas gallo-romaines sur le pourtour du bassin d'alimentation du ruisseau de Rignac. Maintenant, on le sait, mais grâce à la cavité. Parce qu'on a retrouvé des morceaux d'amphores qui datent du 1er siècle.
Donc on peut dire, quand on fait de la spéléologie, on est un petit peu explorateur, finalement.
Mais le but de la spéléologie... Quand on a fait le tour des cavités, parce que le milieu souterrain est peu changeant. On retrouve toujours les mêmes formes, on retrouve aussi, etc. Le but, c'est d'explorer. Hein. Le but, c'est de découvrir. Nous sommes Neil Armstrong sur la Lune. Nous mettons le pied là où jamais personne n'a mis le pied. Et je crois que c'est un peu notre orgueil et notre fierté des spéléos. Découvrir, être les premiers à découvrir quelque chose. Voilà, c'est une vraie découverte.
Et quand on découvre une cavité pour la première fois, on peut se poser la question de comment vous faites pour vous orienter dans des réseaux qui doivent être probablement des labyrinthes. Comment vous faites pour vous orienter?
Quand on ne connaît pas les cavités, ben on a des plans, on a des topographies. Les spéléologues font de la topographie, ils font de la carto, cartographie les grottes, dessine.
Si jamais personne n'est entré dans cette grotte.
Et bien, par l'habitude, de toute façon, quand on fait une exploration, pour la première fois, ça ne s'ouvre pas comme ça. On y est depuis longtemps dans la cavité. Parce que les cavités, maintenant, sont de plus en plus. Les parties inexplorées sont de plus en plus inaccessibles. Donc, il faut beaucoup travailler. Et bien, il faut ouvrir les passages. Parce qu'on a souvent des passages qui sont obstrués. Obstrué par des éboulements, obstrué par de l'argile, obstrué par de l'eau, des fois où il faut mettre des pompes pour sortir l'eau et pour pouvoir passer dans la galerie. Voilà. Ou alors il faut plonger, mais des fois ça devient compliqué tout ça. Et on met les moyens de nos explorations, les moyens physiques et les moyens matériels, bien sûr.
Et justement par rapport au matériel, comment vous faites pour descendre dans une cavité. Tu as parlé tout à l'heure des profondeurs de 1,6 km. Quel est le matériel d'un spéléo en fait?
Le matériel des spéléos, déjà, c'est d'être bien couvert et d'être... parce que le milieu souterrain ici est froid.
Quelle température?
Ouais, 13 degrés sous terre avec 98% d'humidité. Ça dépend des cavités, ça peut être un peu moins, mais voilà, donc il fait froid, quoi. Et puis après, quand on a besoin d'être dans l'eau, on met des combinaisons de plongée qui sont isothermes, enfin qui isolent du froid de l'eau, parce que l'eau est à 12 degrés. Et puis après, on a tout du matériel technique, harnais, cordes, des outils pour descendre sur les cordes, des outils pour remonter sur les cordes, et après on équipe les cavités avec des fixations, des chevilles qu'on fixe dans le rocher. Et on s'accroche dessus, on accroche nos cordes dessus, et puis on amène de la corde, et aucun problème, il n'y a pas de limite. Il n'y a que de la limite de nos physiques, mais au niveau matériel, on n'a pas de limite.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir une corde qui fait 1,6 km.
Non, parce que les cavités ne descendent pas d'un seul coup, elles descendent en plusieurs paliers. Donc vous avez une verticale, après une horizontale, une verticale, une horizontale, etc. Donc on amène les cordes nécessaires justement à passer les passages verticaux.
L'ambiance sous terre, elle doit être forcément très sombre, j'imagine bien. Il fait noir. Comment vous faites pour bien vous éclairer? Est-ce que vous arrivez à vous éclairer assez loin pour pouvoir savoir où vous devez aller?
On amène de la lumière.
Vous avez de la lumière et cette lumière, elle est suffisante pour voir l'ensemble de la cavité?
Disons que les préhistoriques dessinaient avec des lampes à huile, etc., dans des cavités où ils ont fait des très très belles peintures, comme à Lascaux par exemple, ou à la grotte Chauvet. Martel descendait avec des bougies, le découvreur de Padirac, il descendait avec des bougies sur son chapeau. Les êtres humains se sont toujours éclairés avec les moyens du bord. Maintenant, on a de l'éclairage électronique absolument génial. On a des phares de voiture qui pèsent 100 grammes sur les casques et on éclaire.
Et je me pose quand même une question, est-ce qu'on peut bien respirer sous terre?
Oui, on respire bien sous terre parce que les cavités, elles respirent. Elles respirent par différence de température. Quand il fait froid dehors, la cavité étant chaude, par exemple il fait moins 10 dehors ou moins 5 ou 0 degré, la cavité étant 13 degrés, l'air chaud va sortir. Donc l'air froid va vouloir rentrer. Et on fait des échanges d'air comme ça. On peut avoir dans certaines cavités du gaz carbonique, du CO2, mais c'est un désagrément. Ici dans le département, on n'a pas des taux de CO2 qui sont, nocifs pour la santé. On a surtout des désagréments liés au CO2, parce qu'il y a un petit peu moins d'oxygène. Mais ça le fait, quoi. Voilà.
J'imagine que quand vous partez comme ça en exploration, vous perdez un petit peu la notion du temps, non?
Alors, le temps sous terre est toujours un temps très long, parce que de toute façon, la progression dans les galeries est toujours difficile. Une bonne moyenne pour un spéléo, quand il est dans un réseau horizontal, sans difficulté notoire, importante, il n'y a pas de verticalité. On fait du 1 km/h. Mais on peut mettre à des endroits, 100 mètres à l'heure, pourquoi pas. Et du moment que c'est étroit, petit et que ça devient compliqué, pourquoi pas.
Ça veut dire quoi, petit, étroit? Ça veut dire qu'on doit ramper, il y a des passages difficiles sur
oui.
corde.
Il y a des passages difficiles sur corde, ou alors il y a des étroitures, ou alors il y a de l'eau, il y a des difficultés qui font, qui ralentissent complètement votre progression. Mais sous terre, l'avantage qu'on a sous terre, c'est que le temps, il n'est pas le temps de la surface. Donc le temps, il est complètement élastique. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de rien, il n'y a que votre montre qui peut vous donner votre temps.
Et donc, vous pouvez partir combien de temps sous terre?
Le temps que la nourriture nous le permet.
Par exemple, toi, t'es parti combien de temps sous terre?
Les expéditions à Padirac, 8 jours.
8 jours.
Mais il faut amener de quoi se nourrir. Mais déjà, 8 jours de nourriture, ça commence à peser lourd, surtout quand on va loin sous terre. Donc, plus on se charge en poids, et moins on avance vite. Donc, Voilà, plus on passe de temps. Et donc, plus il faut de nourriture.
Donc j'imagine quand même que ce genre d'expédition sur plusieurs jours, c'est quand même pas donné à tout le monde et que on peut déjà commencer par faire un petit peu de la spéléologie en mode débutant. Est-ce que tout le monde peut faire de la spéléologie comme ça ou est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Tu as parlé de club tout à l'heure.
Tout le monde peut faire de la spéléologie. La première spéléologie que les gens font, c'est quand ils vont dans des grottes touristiques.
Ah oui, toi tu disais que tu étais professionnel spéléo, donc ça veut dire que tu emmènes des gens sous terre, des touristes.
Des gens qui veulent aller sous terre, qui veulent découvrir le milieu souterrain, simplement pour se faire plaisir ou pour découvrir tout ça. Oui, tout simplement. Et je fais 99% de découvertes. C'est-à-dire des gens qui n'en ont jamais fait. Et principalement, je travaille avec des gens qui sont des touristes. Principalement. C'est 95% de mon activité. Il y a quand même 5% de gens qui sont aussi dans les parages, qui sont locaux. Mais
D'accord.
ils représentent peu de monde. On peut faire de la spéléologie à tout âge, même, je dirais, à l'école maternelle. Il y a des cavités pour tout le monde. Il y a des cavités pour ceux qui veulent se faire des frissons. Il y a des cavités pour ceux qui veulent être dans des passages très étroits. Il y a des cavités pour des gens qui veulent se promener. Il y a des cavités dans des grands passages, des larges passages. Il y a des cavités pour ceux qui aiment l'eau. Il y a des cavités pour le coup d'œil, simplement la concrétion qui vaut le coup et qui est jolie, etc., etc., etc. Il y a des cavités pour, je dirais, tout le monde. Voilà, il y a des cavités pour les petits, il y a des cavités pour les grands, il y a des cavités pour tout. Il suffit de choisir. Voilà. Mais il n'y a pas de limite à l'accessibilité du monde souterrain. La seule limite, je dirais, c'est nos capacités et les conditions météo, parce que certaines cavités, effectivement, sont soumises à conditions météo favorables.
Et oui, justement, tu parles des conditions météo. Quand est-ce qu'on peut faire de la spéléo? Est-ce qu'on peut en faire en toute saison?
Tout le temps, en été, en hiver, etc. Le milieu souterrain, lui, change pas. 13 degrés, l'eau à 12. Il y a des endroits, il peut pleuvoir énormément dehors, il n'y aura pas de montée d'eau. Par contre, il y a des endroits, il va pleuvoir un tout petit peu dehors, et oui, vous pouvez avoir des grosses montées d'eau, donc là, ça devient dangereux. Mais il y a des cavités qui ne sont absolument pas dangereuses. Souvent, les peurs des gens, c'est la peur de l'effondrement. Il y a quand même des cavités qui sont debout, enfin qui se tiennent en place, comme Paddy Rack par exemple, ou le Seu de la Putaille, ou le Vitarel, depuis 10 millions d'années. Et sur 10 millions d'années, il s'est passé 4 effondrements. Voilà, sur une toute petite partie de la cavité. Donc, pourtant, il s'en est passé des choses au niveau de la Terre pendant 10 millions d'années.
Oui, donc ça veut dire que les risques sont faibles quand même finalement.
Bah, les risques d'effondrement sont très faibles. Par contre, il y a des endroits, oui, il y a des risques d'effondrement, mais c'est très très partiel dans les cavités.
Ce sont des cavités qui ne sont pas forcément beaucoup fréquentées, j'imagine.
Absolument.
Si on veut débuter la spéléo, il est préférable de se rapprocher de gens comme toi ou de clubs qui connaissent bien les cavités et qui ont en plus tout le matériel nécessaire et qui connaissent bien les méthodes et la technique.
Bah, accompagné, oui, mais il n'y a pas que moi, il y a les clubs aussi, et j'en fais partie aussi du club, des clubs. Oui, avec des gens qui connaissent, des gens qui ont une passion pour ce milieu et qui accompagnent volontairement. D'ailleurs, le comité départemental, enfin, les clubs se réunissent au sein le premier week-end d'octobre. On fait les journées nationales de la spéléologie dans le Lot. Et ailleurs, dans d'autres départements d'ailleurs, où on fait découvrir gratuitement les cavités aux gens qui veulent venir faire un peu de spéléo pour faire découvrir nos activités.
Et donc, si on veut faire de la spéléologie, soit on s'inscrit dans un club, soit on va en mode découverte avec quelqu'un comme toi. Comment on peut faire pour te contacter alors?
Alors, des professionnels en spéléologie, il y en a pas mal. D'accord. Donc, on est tous trouvables sur les offices de tourisme. Il suffit de mettre sur les moteurs de recherche spéléologie. Donc, on accompagne les gens contre rémunération, ça c'est une chose. Et après, il y a aussi les clubs. Donc après, bah, prendre contact avec les gens. Pour prendre contact avec les gens, il y a un comité départemental de spéléologie dont vous pouvez trouver L'adresse et les coordonnées sur Internet, comité départemental de spéléologie 46. Et là, vous avez les coordonnées des gens qui s'occupent de tout ça et qui vous renvoient vers les clubs, vers des gens qui encadrent bénévolement au sein de la fédération.
Eh bien, merci beaucoup Eric de nous avoir partagé ta passion de cette façon. Je trouve que tu racontes très bien la spéléologie. Je pense même que tu as dû attiser la curiosité de certains de nos auditeurs à aller voir un petit peu ce qu'il se passe sous nos pieds, car nous le rappelons que nous avons la chance d'avoir un territoire très intéressant et riche en cavités. Merci beaucoup Eric.
Eh bien, merci Caroline, et merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Here comes the sun, I say, it's alright.